Bonjour Aymeric Metz.
Bonjour.
Vous êtes le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hautes-Alpes. Nous allons parler ce matin des cartes scolaires qui concernent les écoles et les collèges haut-alpins. C'est la deuxième fois que vous élaborez ce programme pour le territoire depuis votre arrivée en février 2023. La situation générale est une perte du nombre d'élèves dans le département, moins 300 élèves sur tout le territoire dans les écoles et les collèges à la rentrée prochaine. Pourtant, des postes en plus sont prévus à la rentrée prochaine. Un professeur des écoles supplémentaires, un professeur remplaçant pour le premier degré et un poste en plus pour les collèges. Ma question est simple, comment avez-vous fait pour obtenir ces postes en plus?
Nous travaillons avec beaucoup d'attention avec tous les acteurs du territoire, nos équipes pédagogiques, les élus, les collectivités. Et nous avons des échanges réguliers avec notre académie, avec le niveau national pour répondre aux enjeux. Et la ruralité est un enjeu essentiel dont nous tenons tous compte. Et quand je dis nous, j'associe bien sûr les décisions prises par Monsieur le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille qui a tenu, malgré la perte donc de 200 élèves dans le premier degré, c'est-à-dire les écoles, et de près de 90 élèves dans les collèges, à assurer les conditions optimales pour les Hautes-Alpes en octroyant un poste supplémentaire pour les écoles et un poste supplémentaire pour les collèges.
Donc pas de professeur remplaçant, si?
Alors, ce poste supplémentaire dans les écoles nous permettra effectivement d'augmenter la brigade de remplacement en plus des ouvertures et fermetures que nous ferons.
Chaque année, vous tenez un petit peu le même discours avec la défense de la ruralité, des effectifs d'élèves en moins et pourtant des postes en plus. Est-ce qu'un jour, vous n'avez pas peur que le couperet tombe un petit peu sur le territoire? Je m'explique, au moment de la loi finances 2025, on parlait presque de 4000 postes d'enseignants, ou en tout cas dans l'éducation nationale en moins, avant que Madame la ministre Borne revienne dessus.
La vraie question pour les Hautes-Alpes et pour l'éducation dans les Hautes-Alpes, c'est la question de la qualité. La question de la qualité, on en parle peut-être un peu trop peu à mon sens, puisque c'est vraiment l'enjeu quand on a beaucoup de vallées, quand on a beaucoup de territoires différents, il faut toujours se poser la question de comment on s'organise. Donc, nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve, mais ce qui est certain, c'est que la démographie, elle, va rester probablement à la baisse dans les années qui vont suivre. Et donc, nous devrons nous adapter et pour cela anticiper en travaillant notamment avec les élus. C'est pour ça que nous avons une commission qui réunit les représentants des maires avec lesquels nous travaillons toute l'année et pas uniquement au moment de la carte scolaire, pour anticiper, programmer les besoins et faire, je le redis, une école de qualité sur le territoire qui ne passe pas uniquement par le nombre d'élèves par classe.
Cette carte scolaire, justement, elle prévoit des ouvertures de classes à Chabot et Aspres-sur-Buëch. Pourquoi ces deux écoles auront une classe supplémentaire à la rentrée prochaine? Y a-t-il déjà les installations nécessaires pour ouvrir ces deux classes?
Alors, ce qui guide notre action, sont plusieurs facteurs, bien sûr, mais dont la démographie scolaire. Et sur Chabot, comme sur Aspres-sur-Buëch, nous avions constaté une augmentation des effectifs programmés, qui était déjà ressenti l'année dernière, en tout cas pour la rentrée 2024 à Chabot notamment, puisque nous avions ouvert de manière provisoire un poste. Et au vu de la pérennisation des effectifs, nous l'ouvrons de manière définitive. Et pour Aspres-sur-Buëch, une attention particulière à ce territoire que nous accompagnons déjà.
En ce qui concerne l'ouverture d'un poste sur un collège haut alpin, lequel est particulièrement visé par cette ouverture de poste?
Alors pour les collèges, la situation est toujours plus complexe à expliquer puisque nous donnons en fait des moyens qui permettent aux établissements et aux chefs d'établissement de gérer l'ensemble des cours de mathématiques, de PS, etc. Pendant l'ensemble de l'année scolaire. Et donc chaque collège s'est vu attribuer des moyens en augmentation dans ce qu'on appelle le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'heures au ratio du nombre d'élèves. Et nous avons un poste supplémentaire que nous avons conservé pour pouvoir ouvrir un dispositif ULIS, c'est-à-dire unité locale d'inclusion scolaire pour les enfants en situation de handicap, et que nous ouvrirons à Vennes, sur un territoire qui n'en possédait pas.
Justement, ce territoire n'en possédait pas particulièrement à cet endroit-là. Il y a un besoin prégnant?
C'est un besoin que nous avons sur tout le territoire. Les enfants qui actuellement étaient sur le secteur du Vénois se rendaient à Gap ou à Laragne. Et l'idée est de rapprocher un service public d'un territoire.
À l'inverse, le territoire va avoir deux fermetures de classes. Cela concerne les écoles de L'Argentière et de Savines-le-Lac. Qu'est-ce qui justifie ces fermetures de classes?
Là encore, lorsque la démographie scolaire baisse de manière pérenne et continue, il convient de se poser la question de la bonne répartition des moyens. Et donc, sur la commune de L'Argentière, nous aurons des effectifs par classe après cette fermeture à 19 élèves. Donc, nous gardons d'excellentes conditions et nous continuerons à travailler et à veiller à ce que le territoire soit propice à la qualité de l'enseignement. Voilà. Et sur Savine, pour les mêmes raisons, mais nous avons sur Savine un projet un petit peu particulier que nous avons pensé collectivement comme une intention, voilà, avec notamment des échanges avec Monsieur le maire, en disant qu'il serait particulièrement intéressant d'optimiser ce qui se fait déjà, à savoir l'accueil des élèves de l'Institut médico-éducatif, qui est proche. Comment faire pour que toutes et tous dans les classes puissent en bénéficier afin d'avoir une école inclusive et performante. Donc nous mettrons des moyens d'appui à l'école pour essayer de travailler un projet que nous travaillerons avec les équipes pour essayer de construire quelque chose d'innovant et de pertinent au vu de la spécificité de cette commune.
Justement, quelles sont les grandes lignes de cette école un petit peu spécifique sur le territoire que vous souhaitez mettre en place ?
Alors, on va donner carte blanche aux équipes pour construire le projet qu'elles pensent le plus adapté à l'accueil. La réalité, c'est que le territoire est maillé à la fois par nos écoles et à la fois par des instituts qui peuvent accueillir des enfants en situation de handicap ou d'autres spécificités, et qu'à chaque fois, nous voulons nous rapprocher de ce qui peut être le plus fluide et le plus efficace. Nous le savons, j'ai eu l'occasion dans ma carrière de voir des dispositifs innovants qui, par exemple, rapprochaient des jeunes sourds avec des écoles ordinaires. On voyait tout le bénéfice qu'il y avait pour chacun. Donc là, laissons-nous la chance, puisque nous en avons les moyens, de construire quelque chose d'optimum et de pertinent.
Donc cette carte scolaire, elle parle aussi bien elle parle surtout des professeurs, des moyens qui vont être alloués auprès des élèves. Il y a une catégorie de personnes, les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, ou surtout des accompagnantes, puisque cela représente 93% de la population. Elles avaient manifesté devant les bureaux de l'Académie début janvier pour protester contre une rémunération insuffisante. Qu'est-ce qui est prévu sur le territoire pour les AESH à la rentrée prochaine ? Est-ce qu'il va y avoir une augmentation des salaires comme elles le demandaient en janvier, et ou une augmentation des moyens pour accompagner les élèves qui en ont besoin ?
Alors, les accompagnements d'élèves en situation de handicap sont effectivement plus nombreux parce que les besoins ont augmenté. Les leviers sur lesquels vous m'interrogez ne sont pas les leviers à la main du DAZN. Bien sûr, la question de la rémunération est une question nationale, donc les arbitrages seront opérés au niveau national. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est, encore une fois, rendre la situation des AESH qui exercent dans les Hautes-Alpes la plus souhaitable possible et la meilleure, c'est-à-dire en étant attentif à l'accompagnement des élèves qui leur sont attribués pour qu'ils puissent et qu'elles puissent, puisque vous avez raison, elles sont une profession majoritairement féminine, pouvoir avoir des conditions d'exercice les meilleures. Voilà. Et donc nous sommes attentifs sur tout ce qui relève de ce sujet.
En particulier leurs conditions de travail, puisqu'on sait que bon, ce n'est pas forcément votre territoire, parce qu'on parle des Alpes de Haute-Provence avec Manosque, où la mairie a été obligée de prendre en charge les AESH pour un budget estimé à 51 000 euros. Le maire indiquait que les services de l'éducation nationale n'étaient plus en mesure de respecter leurs obligations légales concernant la prise en charge des AESH pendant la pause méridienne. Il n'y a pas ce cas de figure sur le territoire walpin.
Il y a un décret qui vient de paraître qui reprécise les missions de chacun. Donc nous avons à cœur de tenir les missions qui incombent à l'éducation nationale, c'est-à-dire à l'État, et nous sommes tout à fait en capacité de le faire et nous continuerons ainsi.
Enfin, une dernière question en lien avec l'actualité nationale, et plutôt l'affaire Betaram. Plus de 100 lettres dénonçant des faits de viol, d'agression sexuelle et de violence commis sur une période de 5 décennies. Elisabeth Borne a annoncé un renforcement des contrôles des établissements privés sous contrat. Combien de contrôles avez-vous effectué cette année pour les 10 établissements du territoire, et avez-vous déjà donné des consignes pour les renforcer ?
Alors, il y a déjà eu effectivement des contrôles opérés sur notre territoire, comme nous en faisons régulièrement, et nous continuerons à le faire. Vous savez que les Hautes-Alpes ne sont pas un territoire particulièrement dense en termes d'enseignement privé, puisque quand vous dites 10, c'est en associant effectivement de l'école jusqu'au lycée, l'ensemble des établissements scolaires qui sont à ramener aux plus de 150 établissements publics qui sont présents sur les Hautes-Alpes. Mais ceci se fait en lien, bien sûr, avec les services d'inspection de l'Académie d'Aix-Marseille. Et nous continuerons effectivement à être vigilants avec, je crois, aussi une demande qui est faite de transparence des établissements privés sur les Hautes-Alpes qui sont tout à fait disposés à travailler à cette clarté et à cette transparence pour rassurer tout le monde.
Merci beaucoup, Aymeric Metz, d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1.
Merci à vous.